Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs, bienvenue dans cette édition du journal parlé. En voici les temps forts. Le secrétaire général adjoint des Nations Unies et le directeur de l'OMS saluent le travail abattu jusque-là dans la riposte contre l'épidémie à virus Ebola dans le Nord Kivu. Ils l'ont fait savoir ce matin à leur arrivée à Beni. Les élèves du secondaire dans les territoires de Nyangara étaient dans la rue cet avant-midi. Ils réclamaient le départ de l'inspecteur chef de poule de la sous-division de l'EPSP Nyangara dans la province de la Tchopo. Il accuse d'avoir aligné 70% d'élèves régulés comme autodidactes à l'examen d'État édition 2018-2019, ce que lui demande. Les ONG des droits de l'homme du Sud Kivu réclament la suppression de certaines décisions de l'autorité provinciale dans la façon de gérer les domaines des droits de l'homme dans la province. Notez, le gouverneur avait supprimé le ministère provincial des droits de l'homme. Aucune réaction jusqu'alors de la part des autorités. Voilà tout pour le sommaire. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bonjour. Le secrétaire général adjoint des Nations Unies en charge des opérations de maintien de la paix et le directeur général de l'OMS sont arrivés cet avant-midi à Beni, dans le Nord Kivu. Ces deux personnalités ont salué le travail abattu jusque-là dans la riposte contre l'épidémie à virus Ebola qui sévit dans la région. Le détail avec Martial Papimukeba.
Après leur arrivée à Beni, Jean-Pierre Lacroix et Tedros Adhanom ont d'abord participé à un briefing de sécurité avec les FRDC et les forces de la MONUSCO sur la situation sécuritaire dans la région. Ils ont ensuite visité les quartiers généraux de la riposte contre Ebola. Sur place, les patrons des opérations de maintien de la paix de l'ONU et les directeurs généraux de l'OMS qui se sont adressés aux équipes engagées dans la riposte ont salué les travaux effectués à ces jours dans la lutte contre Ebola à Beni. Pour Jean-Pierre Lacroix, l'insécurité et Ebola sont un défi pour la région.
Oui, il y a des cas et il y a encore des nouveaux cas, mais si vous n'aviez pas été aux avant-postes pour faire tout ce que vous avez fait jusqu'à présent, il y aurait probablement 100 fois, 10 fois ou 100 fois plus de cas. Il y aurait donc 10 fois ou 100 fois plus de morts. Ici, nous avons le défi d'Ebola, nous avons le défi de la sécurité des groupes armés. Face à ça, nous devons travailler de manière très unie et c'est ce qui se passe avec le leadership des autorités congolaises qui prennent les choses en main, avec le soutien de la MONUSCO et au centre du partenariat international pour lutter contre Ebola.
Signalons que Mme Leila Zirugui, chef de la MONUSCO, a remis à titre symbolique au directeur général de la maladie au ministère de la Santé un certificat d'appréciation du travail de ses équipes. Beni, Martial Papimukeba, Radio Okapi.
Autre nouvelle, la directrice du centre Boumi à Lubumbashi qui encadre les enfants orphelins et autres vulnérables plaide pour l'implication des autorités provinciales dans la prise en charge de ses enfants. D'après elle, le phénomène enfant de la rue prend de plus en plus de l'ampleur dans la ville. Sans encadrement de l'avenir, l'avenir de ses enfants est compromis. C'était à l'occasion de la remise le lundi dernier de vivres et non vivres par les femmes de la police civile de la MONUSCO, Lubumbashi, à ce centre qui compte plus d'une centaine de pensionnaires. On écoute Madame Thérèse Ilunga, directrice du centre Boumi, au micro de Colette Djuma Moussampo.
Vous voyez, la MONUSCO vient d'arriver avec un don en farine, divers matériels. Nous vivons des dons de diverses personnes qui viennent par solidarité nous donner un coup de main. Mais nous avons aussi un partenaire extérieur qui donne un financement annuel qui nous permet d'ajouter aux besoins des enfants parce que c'est insuffisant pour que ça puisse prendre les 120 enfants. Mais c'est déjà un pas pour la scolarité des enfants. La scolarité, c'est-à-dire les frais scolaires, la prise en charge des enseignants, la prise en charge des éducateurs, les mamans, parce que les mamans sont payées mensuellement, même si c'est un salaire minimes, mais ils sont payés. La difficulté d'abord, c'est la surpopulation de nos enfants. Il y a une demande accrue depuis plusieurs mois. Vous avez vu vous-même dans la ville de Lubumbashi, combien d'enfants errants. Et ça, c'est très mal. Et on ne peut pas continuer à les laisser, à les regarder.
Le gouvernement provincial est là et est-ce que vous assistez?
Le gouvernement provincial voudrait les interpeller. À s'ouvrir non seulement à Boumi, mais à toutes les maisons des personnes qui font un travail. C'est un travail de partenariat parce que c'est d'abord le rôle du gouvernement. Et nous voudrions que le gouvernement nous découvre et nous accompagne.
En Ituri, plus de 600 enfants des déplacés de Djougou sont encadrés par l'ONG Espace Amis des Enfants dans le site 2 de la ville de Bounia. Ces enfants en âge scolaire ont raté l'année scolaire passée et même pour cette année, ils n'ont plus l'espoir d'aller à l'école comme les autres. Le gouvernement provincial dit avoir mis en place 5 mécanismes pour les insérer dans des écoles de Bounia. Mais leurs encadreurs veulent plutôt qu'on leur crée un centre de rattrapage dans le site vu leurs difficultés de langue et le retard déjà encaissé sur le programme femme normale. Sadiki Aboubakar nous en parle.
Ces enfants sont encadrés par l'ONG Espace Amis des Enfants dans le cadre d'un projet du Fonds des Nations Unies pour l'Enfance, UNICEF. D'après les encadreurs, ces projets étaient plutôt destinés à l'encadrement des enfants non accompagnés. Cependant, la réalité du terrain l'a orienté à s'occuper de tous les enfants présents dans le site. En quoi consiste concrètement cet encadrement? Mireille Bogota, encadreur.
On les occupe dans les dessins, les récitations, les chants, les jeux. Nous avons des ballons, il y a les balançoires, il y a beaucoup de jeux que nous organisons pour essayer de les épanouir un peu.
Le ministre provincial de l'EPSP affirme que l'année passée, les parents de ses enfants avaient refusé de les insérer dans des écoles de Bounia. Dieudonné Ngadjoli.
Les parents ont refusé à ce que ces enfants soient insérés dans le système scolaire à cause de la langue. À l'époque, on croyait que la situation allait revenir vite à la normale pour que ces enfants puissent rentrer dans les milieux d'origine. Cette année-ci, mes services ont été largués sur le terrain pour faire leurs statistiques. Je pense que vous avez vu sortir de mon bureau un des inspecteurs à qui j'étais en train de donner encore la même instruction de vérifier si on reçoit tous les enfants déplacés dans les écoles.
Pour le ministre, il n'est pas question de créer un centre d'isolement scolaire comme le souhaitent ses encadreurs. Bounia, Sadiki Aboubakar, Radio Okapi.
Autre nouvelle de la province du Haut-Touélé, toutes les activités ont été paralysées cet avant-midi dans le chef-lieu du territoire de Niangara, situé à plus de 700 km au nord-est de Kisangani. À la base, la marche des élèves du secondaire qui réclament le départ de l'inspecteur chef de poule de la sous-division de l'EPSP Niangara. Il accuse d'avoir aligné 70% d'élèves réguliers de la dite sous-division comme autodidactes à l'examen d'État édition 2018-2019. Faux et archifaux, rétorque l'inspecteur chef de poule. Les explications avec Anselme Massois.
C'est vers 7h du matin, déclare la société civile locale, que les élèves finalistes de la sous-division de Niangara ont déclenché la marche dans le quartier Libunza. Chemin faisant, les manifestants passaient dans différentes écoles de la cité pour inviter les autres élèves à se joindre à eux. Et avant de se rendre au bureau du territoire où leur mémorandum a été lu, la foule est partie saccager le domicile de l'inspecteur chef de poule. Selon la même source, les élèves ont tout abîmé. Ils ont cassé les meubles, déchiré et jeté dehors tous les documents importants qui s'y trouvaient. Un acte à déplorer, affirme la société civile, surtout que ce domicile servait aussi du bureau de l'inspecteur chef de poule. La police est intervenue et a tiré des coups de feu en l'air pour disperser la foule. Contacter l'inspecteur incriminé, protégé par la police, déclare n'être pas responsable de cette situation. Emmanuel Ebandrombi affirme avoir simplement appliqué l'arrêté du 23 mai 2017 du ministère de l'EPSP, lequel arrêté a fait basculer plusieurs élèves réguliers en élèves autodidactes. Cet arrêté stipule que tout élève qui a présenté au moins une fois l'examen d'État sans succès doit désormais passer cette épreuve comme autodidacte et non comme élève régulier. Kisangani, Anselme Massoua, Radio Okapi.
Au sud Kivu, les acteurs de la société civile membres de ICJP, Initiative Congolaise pour la Justice et la Paix, et la NDSCI, Nouvelle Dynamique de la Société Civile, ont initié à la justice un recours administratif pour réclamer la suppression de certaines décisions de l'autorité provinciale dans sa façon de gérer le domaine des droits de l'homme dans la province. Une question épineuse qui, selon eux, concerne tout le monde. Cette requête de défenseurs des droits de l'homme au sud Kivu fait suite à des mesures de revendication entamées il y a quelques mois, faisant référence à la suppression par le gouverneur du ministère provincial des droits de l'homme. Pour l'heure, aucune réaction du côté de l'autorité provinciale. Raphaël Wakenge de l'organisation ICJP donne des recommandations irrelatives au micro de Jean-Baptiste Ntonga.
Pour respecter la légalité, les requérants ICJP et NDC vous prient, monsieur le gouverneur, de retirer l'arrêté provincial numéro 18-037 portant création, organisation et fonctionnement d'un commissariat chargé de la justice, des droits humains et l'arrêté provincial numéro 18-038 portant nomination d'un commissaire provincial chargé de la justice des droits humains au sud Kivu. De nommer un ministre de la justice et droits humains ou à la limite d'attribuer les charges précitées à un ministère existant. De suspendre provisoirement la prison centrale de Kabare et transférer les détenus dans des prisons du Sud Kivu conforme aux standards internationaux relatifs aux droits des détenus.
On parle politique dans cette édition. Six composantes du rassemblement de l'opposition, signataire de l'acte d'engagement de Genval et de l'accord de la Cinco, affirment soutenir la candidature de Félix Tshisekedi comme candidat commun de l'opposition à la prochaine présidentielle. Dans leur déclaration à la presse hier mardi à Kinshasa, ces composantes parmi lesquelles les alliés de l'UDPS, le G14, la MPP et la Société civile du Congo ont jugé le choix de Félix Tshisekedi d'avoir plus de chances pour l'opposition de gagner les élections. Alors que sept leaders politiques de l'opposition se réunissent à Genève pour choisir un candidat commun. Ces organisations politiques affirment soutenir cette démarche portée par Katumbi, Bemba, Muzitu, Matungulu, Fayulu, Kamere et Tshisekedi. On écoute le rapporteur général du RASOP, professeur Boissa, au micro de Michel Kifindangoy.
Rappelons que l'accord du 31 décembre 2016 a été codifié par la résolution des Nations Unies qui apporte son appui résolu quant à son exécution. Se fondant de cette résolution, le rassemblement est devenu sujet de droit politique du dit accord. Conformément au calendrier électoral de la CENI, avons déposé des candidatures à tous les niveaux. En conséquence, apportons notre soutien à la démarche des sept leaders de l'opposition à la recherche du candidat commun de l'opposition. À cet effet, apportons notre soutien à M. Félix Tshisekedi, président du Rassemblement. Invitons les quatre candidats issus du Rassemblement à rencontrer notre démarche et à harmoniser leurs vues en vue de barrer la route aux candidats du FCC dans l'intérêt supérieur de la nation.
L'invité. L'invité de cette édition, c'est le coordonnateur du programme de lutte contre les maladies tropicales négligées dans le Kasaï. Le docteur Sylvain Kabassélé revient sur la distribution des médicaments pour aider ceux qui en souffrent, citant entre autres l'oncocercose et la filariose. Le docteur Sylvain Kabassélé s'entretient avec François Kadima.
Docteur Sylvain Kabassélé, bonjour.
Bonjour.
Le programme que vous coordonnez a débuté la distribution de médicaments contre les maladies tropicales négligées. Quelles sont ces maladies?
Selon l'OMS, on dénombre plus ou moins 10 maladies. Mais pour ce qui concerne notre milieu, on traite 4 maladies, parmi lesquelles il y a l'oncocercose, il y a la filariose lymphatique, la géoélémentiase et les schistosomiases.
Pourquoi elles sont appelées maladies tropicales négligées?
Parce que ces maladies sont plus rencontrées dans la communauté et les gens ne se rendent pas du tout compte. Et ces maladies engendrent plusieurs conséquences et rendent un peu les gens, la plupart, les aveugles, et les gens avec de grosses bourses, surtout dans les cas d'hydrocèle, des fois avec de gros pieux, ce que nous appelons éléphantiasis, et les gens qui sont atteints vraiment de ce genre de maladies sont incapables de pouvoir produire ou participer au développement de notre milieu. C'est ainsi que la plupart des gens, on appelle ces maladies tropicales négligées parce que souvent, elles passent inaperçues sans se rendre compte.
Vous avez débuté une campagne de distribution de médicaments. Cette campagne se déroule pour l'ensemble de la province du Kasaï central ou c'est seulement ici à Kananga?
Non, notre coordination englobe la province de l'ex-Kasaï occidental, c'est-à-dire pour les deux provinces actuelles. Donc, la province du Kasaï et Kasaï central. Donc, ça concerne toutes les 44 zones de l'ex-province du Kasaï occidental. Comme vous le savez, plus ce sont des maladies tropicales dans le milieu tropical. Et ce qu'on raconte le plus souvent chez nous, c'est ce que je vous parle. Mais les autres peuvent être rencontrés dans d'autres villes. Par exemple, les gens qui sont ailleurs, ils rencontrent plus de vers de Guinée. Il y a les autres maladies tropicales qui on traite dans notre programme, mais qui sont vraiment traité ou coordonné dans d'autres coordinations. Les cas, par exemple, de la lèpre, ça fait partie des maladies tropicales négligées. Nous avons la trypanosomiase, mais qui a une coordination particulière concernant, ça fait partie aussi des maladies tropicales négligées. Les maladies tropicales négligées sont très nombreuses.
Donnez-nous un peu quelques conséquences de toutes ces maladies.
La personne atteinte de ce genre de maladie, plus souvent, il peut être aveugle, la maladie peut le rendre aveugle, il peut avoir un peu de problème d'éléphantiasis, il peut avoir un peu le cas d'hydrocèle avec plusieurs conséquences qui peuvent survenir, et d'une façon générale, cette personne est incapable de pouvoir vraiment faire les travaux pour participer au développement de notre milieu.
Avez-vous le tableau de la situation ici?
Oui, la situation est là dans nos statistiques. Nous avons vraiment quelques cas de maladies, comme les gens qui sont presque aveugles. Nous avons les statistiques. Les gens qui ont des problèmes d'hydrocèle ou les cas de grosse bourse, qui est défini comme une accumulation de liquide dans la cavité vaginale. Nous avons des statistiques. Nous avons des statistiques des gens qui ont des problèmes de lymphoédème. Lymphoédème, c'est le gonflement. Donc, il peut atteindre soit les membres inférieurs, soit les membres supérieurs, ou des fois les seins. Et donc, nous avons quelques statistiques.
La distribution de médicaments, comment elle se déroule?
La distribution est périodique. Parce qu'actuellement, avec le programme, on est en train de chercher comment éliminer et contrôler les maladies. Le plus souvent, ailleurs, les maladies, la distribution peut se faire deux fois l'an. Mais par rapport à la réalité de notre milieu, ça se fait une fois l'an. C'est-à-dire chaque année, et on est obligé vraiment de procéder à la distribution des masses des médicaments contre les maladies. Maladie tropicale négligée. La stratégie est de porte à porte, c'est-à-dire les distributeurs communautaires. Donc après avoir formé les différents acteurs, donc les membres de l'équipe cadre des zones de santé, les infirmiers titulaires et les distributeurs communautaires que nous appelons les relais communautaires, ce sont eux qui vont distribuer les médicaments dans les ménages. Ils vont passer ménage par ménage après avoir dénombré les personnes qui sont éligibles au traitement, et ensuite, au même moment, ils administrent les médicaments.
Docteur Sylvain Kabassélé, nous vous disons merci.
Merci.
Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis.